patrimoine et spiritualité. Patrimoine et spiritualité, une émission réalisée avec Chantal Bruel. Aujourd'hui, nous poursuivons la lecture du poème entamé la semaine dernière. Il s'intitule « Les amis de Providence ». Donc, je rappelle toujours, dans le cadre de ces lectures de l'ouvrage de Gilles Lade, « Conte des mille collines » aux éditions Tertium. Chantal, c'est à vous.
Le soir surtout, les hérissons venaient. Ils cherchaient à se rapprocher d'elle, sans jamais l'effleurer de leur piquant. Il lui faisait penser à des félins qui feraient pattes de velours. L'un s'étirait sur le flanc, pendant que l'autre quêtait de la nourriture, en se dressant contre ses jambes. Le chien prenait son parti de cette concurrence. Lucie sentait sa noirceur se déliter progressivement. Elle se rappelait le meilleur des derniers temps vécus avec son mari, le moment où ils avaient vraiment vécu l'amour. Cette expérience qui vous renforce à jamais, parce que vous vous sentez justifié, investi d'une valeur que vous ne soupçonniez pas. Et même si cet état a disparu, la suite des choses ne l'annihile pas vraiment. Les hérissons, tantôt soufflaient dans une sorte de relation conflictuelle, tantôt s'étalaient, bien en vue, comme des animaux de compagnie. Elle avait l'impression qu'ils avaient définitivement rompu sa solitude, plus que n'aurait pu le faire son chien, tout intégré à son cadre de vie habituel, ou même ses voisins. Elle prit conscience qu'elle se condamnait moins et se sentait moins encline à accabler les autres. Dès qu'elle se levait de sa chaise, les hérissons se mettaient à trottiner autour d'elle, comme des personnes à part entière. Et lorsqu'elle rejoignait sa chambre, escortée par ses deux compagnons, elle lisait « mieux en elle ». Tout se passait comme si ces petits animaux lui avaient rendu le futur à nouveau désirable. Curieusement, une parole de sa mère lui revint. Un jour, alors que leur antagonisme s'était un peu dénoué, elle lui avait dit « Tu étais une bonne petite. Avant que tu ne t'endormes, je te racontais une histoire et tu m'expliquais ce que tu avais fait à l'école. » Ah, Lucie considéra que l'affection, même fugace, dont sa mère témoignait ainsi, jetait un bel éclairage sur toute leur vie et elle se sentit apaisée. Au matin, elle eut l'impression que les hérissons étaient particulièrement vifs et joyeux. Avant de sortir dans le jardin, comme ils le faisaient tous les jours, ils eurent une mimique de complicité, comme un clin d'œil par-delà les espèces. Mais les circonstances ne voulaient pas lâcher prise. Quelques jours plus tard, elle reçut une lettre de sa fille qui valait réquisitoire. « Parmi de nombreux reproches, figurait celui d'être responsable de ses échecs et notamment de son célibat. » Lucie resta un moment songeuse, puis elle laissa son front aller contre la table. Un silence total pesait autour d'elle. C'est alors qu'elle fut alertée par un froissement d'air. Un corbeau, descendu des vastes chênes qui environnait la maison, venait de se poser près de la porte-fenêtre du séjour. Noir et luisant, le bec fort, il la regardait, exemple de toute méfiance. Il semblait tomber tout droit des âges lointains et de hautes sphères vers lesquelles Lucie enfant et Lucie adulte n'avaient jamais porté le regard. Les corbeaux, pour elle, c'étaient des oiseaux criards qui traversaient la vallée du Célé bien au-dessus des rochers et qui, l'hiver, se rassemblaient en groupe dans les labours. Les garçons les chassaient, s'y intéressaient, mais pas les filles. Lucie revint à son dur souci. était-elle responsable du malheur de sa fille? Comment réparer tout cela? Elle passa en revue toutes les occasions d'affrontement et surtout d'incompréhension. Combien de fois avait-elle remarqué le front buté de son enfant? Que de silence et parfois une explosion de colère. Elle se mit à méditer leur passé commun, laissant émerger des circonstances au gré de sa vie intérieure. Or, pendant qu'elle prenait ses résolutions, deux corbeaux étaient entrés. Ils évoluèrent dans les pièces avec une aisance gracieuse. Ils semblaient chercher un perchoir et un lieu précis où s'établir. Ils montèrent d'abord sur une armoire, puis ils sautèrent dans un petit panier rempli d'objets décoratifs, sans jamais quitter des yeux Lucie. Elle continuait de penser avec affection au hérisson et décida de s'occuper de ses hôtes nouveaux. Elle se dirigea vers le frigidaire. Ils la suivirent, en attendant qu'elle choisisse quelque nourriture. Elle découpa divers mets, viande, fromage, fruits, et leur donna littéralement la béquée. Lucie en oubliait son taraudant souci. Elle avait l'impression que les oiseaux lisaient en elle et voulaient l'apaiser. Pendant qu'elle prenait ses repas, ils attendaient qu'elle leur distribue un peu de nourriture. Le reste du temps, ils évoluaient infatigablement autour d'elle, dans les différentes pièces et au jardin. Au milieu de cette étourdissante présence, jamais Lucie ne s'était sentie plus seule. Longtemps, elle avait trouvé son équilibre dans les relations médiocres qu'elle entretenait avec son mari, sa mère, sa fille. Or, ce précaire système relationnel était tombé. Et c'est sa fille, dont elle se sentait secrètement la plus proche, qui lui marquait le plus d'hostilité. Quand elle allait faire les courses au village, distant d'un kilomètre environ, et elle s'y rendait souvent à pied, les corbeaux la suivaient de loin à loin, de noyer en noyer, de chaîne en chaîne. Ils descendaient sur la route, allaient se poser dans le champ voisin. Mais leur manège était suffisamment discret pour que personne n'y voie clair. Lorsqu'elle ressortait de l'épicerie, les oiseaux reprenaient leur accompagnement précautionneux et enjoué, à en juger par leur ponctuation sonore. De jour en jour, leur présence se faisait plus pressante. Coup de bec au volet dès le matin, confiance de plus en plus évidente. Il montait sur ses genoux, ses épaules, sautillait sans fin autour d'elle. Les hérissons tentaient de reconquérir leur territoire domestique, mais ils étaient découragés par tant de virevoltante présence et ils cédaient le pas. Un jour, Lucie en trouva un sous l'horloge comtoise. Il sembla lui demander de ne pas attirer l'attention sur sa présence. Il repartit le soir même. Bien que pacifique et discret, les hérissons faisaient partie de sa vie désormais et il voulait le lui faire savoir. Mais Lucie continuait à revivre le temps passé avec sa fille et elle comprit à quel point les relations tendues qu'elle avait avec son mari et ses propos même à l'encontre du mariage avaient pu l'influencer défavorablement. Elle se souvint aussi de sa froideur à l'égard d'un jeune homme qu'elle lui avait présenté. Elle lut alors dans les yeux de sa fille les effets de sa dureté de cœur et de sa jalousie mesquine. Ainsi était allé leur temps commun, d'égoïsme, en incompréhension. Lorsque Lucie se trouvait plongée dans le plus intime découragement, elle sentait une aile la frôler, une patte se poser sur elle. S'ensuivaient de petits coups de bec, des babils affectueux. Lucie avait envie d'oublier la terne vie humaine en regard de l'entrain inépuisable dont faisaient preuve les corbeaux. Quand elle s'asseyait le soir face à la combe et aux collines où la lumière passait de l'éclatant au gris, elle était préservée de l'accablement par ses compagnons qui convergeaient vers elle comme si elle était le centre de leur vie. Seule, cruellement seule, écrasée par un sentiment d'échec multiforme, Lucie se laissait réconforter par une tendresse animale qui multipliait ses approches. Plus elle butait sur les fins de non-recevoir de sa fille, plus elle était assaillie de volettements et de prévenances, au point qu'elle résolut de laisser l'amitié toujours renouvelée de ses oiseaux effacer son morne échec. Alors, elle restait de longs moments face au vallon qui se redressait vers les hauteurs d'entre Lot et Célé. La confiance qui l'animait de temps à autre n'était pas très ferme. Elle le sentait bien. Elle s'abandonnait autant à son destin qu'à la Providence. Et elle sentait monter en elle un épuisement dangereux. Un jour, elle alla chez le médecin qui lui dit grave et calme « Vous êtes en train de perdre pied. Votre corps vous lâche. » Elle prit l'ordonnance, acheta ses remèdes et se sentit écrasée jusqu'à l'entrée de sa demeure par la nécessité de choisir entre la mort et la vie. Le jour finissait. Elle s'assit une fois de plus sur la terrasse, à l'arrière de la maison, offerte à ce qui pourrait se présenter d'énergie et de vie, à l'image d'un bief de moulin qui se remplit lentement de son eau. Mais cela n'aurait pas suffi si elle n'avait pas été alertée par un bruit nouveau. À la lisière du bois, elle distingua deux yeux brillants aux aguets, deux yeux qui appartenaient à un corps monté sur ressort. Elle comprit bientôt qu'il s'agissait d'une loutre, remontant le scellé vers une vasque située un peu plus haut. L'animal la scrutait, la guettait, attendait d'elle une réaction comme un engagement. Il y avait du défi dans ce corps prêt à bondir vers elle. La loutre était une compagnie et un exemple. Celui d'une vie qui ne renonce pas. Le docteur le lui avait laissé entendre. Si elle se laissait aller, elle serait submergée par les forces de mort qui attendent toujours la moindre de nos faiblesses. « Mais pourquoi vivre ?» se dit-elle. « Mon mari et ma mère sont morts. Mon fils vit en famille loin de moi à tous égards. Ma fille m'a quasiment reniée et j'ai peu de relations avec mon entourage. » Mais elle savait bien que sa mère et son mari était de plus en plus en dialogue avec elle dans le fond de son cœur et qu'elle avait désormais la capacité de se mettre à l'écoute du monde et des choses. Elle appréciait les émissions de radio et de télévision les plus instructives. Elle pouvait aussi observer autour d'elle, contempler, sans se laisser aller à l'idée que cela soit du temps perdu. Un élément supplémentaire la rassérénait. Une de ses amies du village était venue lui dire, avec des airs ravis et complices, que sa fille avait trouvé un compagnon et qu'elle semblait très heureuse. Ah, Lucie se sentait désormais moins inutile et moins morose. Les jours où une sorte d'euphorie la gagnait, elle remarquait que les hérissons, les corbeaux, la loutre, s'enhardissaient particulièrement. Chacun, avec sa manière d'être, manifestait une complicité et venait prendre part à la vie de Lucie. La loutre surtout l'intéressait en ce moment. Récemment, elle s'était introduite dans la cuisine, d'où elle détala de manière fulgurante à l'arrivée de Lucie. Cette dernière se décida à sceller leur amitié de leur meilleure manière. Elle demanda à un jeune garçon, pêcheur passionné, de lui apporter une vingtaine de poissons vivants dans un seau. Un soir, dès qu'elle vit briller les yeux de la loutre, elle lui lança le premier poisson, aussitôt dévoré, avec application et avidité. Lucie expédiait les poissons de moins en moins loin. À la fin, elle aurait presque pu caresser la loutre. Finalement, l'animal s'éloignait, mais juste avant de fermer les volets, Lucie regarda vers le scellé et distingua très nettement un petit animal sur le dos de la loutre. Ce ne pouvait être qu'un loutron. Jour après jour, Lucie se sentait plus forte, plus sereine. Elle avait refusé de refermer l'horizon sur elle-même. Mais c'était au prix d'une volonté héroïque. Insensiblement, la lumière changeait, en elle, et aussi autour d'elle. Un jour, son amie vint la trouver avec une lueur étonnamment vive dans les yeux. Elle lui annonça, dans un chuchotement, que sa fille était enceinte et qu'elle lui rendrait bientôt visite avec son compagnon. Ah, Lucie sentit sa poitrine se dénouer. Elle embrassa son amie, ne cacha pas ses larmes. La voisine, tout émue et empressée, s'en allant bientôt. Ainsi donc, Lucie allait être grand-mère, ce qui ouvrait les vannes de son propre cœur, le resserrement de son existence adouci et, jusqu'à un certain point, conjuré par les animaux, se dénouait définitivement. La visite de sa fille, désormais sereine et forte, la changea du tout au tout. Il lui semblait entrer dans une plaine sans obstacle. Lorsque sa fille l'embrassa, en repartant, elle le fit avec ce sourire aimant et confiant dont elle était amèrement jalouse lorsqu'elle le surprenait autour d'elle. Chaque fois que sa fille était présente, elle se sentait visitée, investie par la maternité d'une manière plus troublante que lors de ses propres grossesses. Elle désirait déjà prendre dans ses bras cette vie promise. La naissance fut rapide, inopinée. Un message téléphonique lui annonça la nouvelle. Lucie tentait de reprendre ses esprits. Dans son saisissement émerveillé face à la baie vitrée qui donnait sur la combe au sud, lorsqu'elle se remémora l'étrange scène qui l'avait pétrifiée la veille au soir. Une biche longeait le bois, suivie de son faon. Prémonition des destinées, prescience de l'animal, elle alla rapidement rejoindre sa fille et découvrit l'enfant, une fille qui s'appellerait Adeline. Elle revint chez elle, rassérénée et sauve de tout sentiment de solitude. Elle se sentait adoptée par les parents, autrement dit en famille, sans tiraillement ni tourment. Les journées passaient vite, au gré des progrès dans la vie de la petite. Le téléphone était désormais le prolongement naturel de l'attente, du désir, de la pensée. Mère et fille étaient revenues à la maison. Lucie répondit à la première invitation. Elle serait la marraine, autorité affectueuse et tutélaire. À la fin du repas, le soir, les parents lui proposèrent de s'installer aussi longtemps qu'elle le voudrait au rez-de-chaussée, dans deux ou trois pièces parfaitement aménagées. Ses yeux brillèrent, mais elle demanda de réfléchir un peu. Le lendemain, juste avant midi, elle se rendit compte qu'elle n'avait toujours pas de réponse à la question « Resterait-elle ici ?» C'est alors qu'elle eut la vision, oui, la vision de ses chers compagnons alignés devant elle et qui la fixaient avec une intensité accusatrice. Ainsi, elle allait les abandonner ? Il n'exprimait pas la colère d'avoir été trompé, plutôt le scandale de voir un ordre des choses délicieux délibérément bafouée. Lucie comprit qu'elle ne pouvait pas s'engager à rester auprès de sa fille. Elle expliqua qu'il ne lui était pas possible de transférer d'un coup sa vie, mais qu'elle serait infiniment heureuse de faire de fréquents séjours ici même. Le chemin du retour fut triste. Ainsi, elle, Lucie, voyait son destin amputé d'une liberté et d'un bonheur somme toute inespérée. et cela pour répondre à l'amour gratuit de ses compagnons animaux. Quand elle arriva chez elle, elle vit ses amis aller et venir en petits groupes derrière la maison. Un peu plus loin, la biche, assise, empreinte d'une sereine majesté, laissait évoluer son fan autour d'elle. Lucie s'installa dans une chaise longue et tenta de maîtriser sa pensée et ses émotions. Loin de la vie urbaine et précipitée, elle serait pour Adeline la gardienne des journées de soleil et de pluie, de silence et de vent, de promenade et d'observation, de jardinage et de cueillette. Elle proposerait à la petite fille un monde dont elle serait la seule maîtresse, un monde riche de regards multipliés à l'infini et qu'aucun livre ne lui enseignerait jamais. Elle lui montrerait les goujons divaguant dans le scellé d'un banc de sable à l'autre. Elle lui apprendrait à voir la rivière passer des eaux noueuses de l'hiver aux minces courants de l'été, à guetter le martin prêcheur et le cincle plongeur. Elle savait que ces scènes, ces tableaux, ces journées ne mourraient jamais dans la mémoire de l'enfant. Elle, Lucie, serait assignée à ce lieu pour le faire aimer et le transmettre, tout habité par la durée un peu étrange des grands versants boisés et des falaises tombant sur la rivière. Elle apporterait aux siens l'arôme et le rythme des saisons avec ce regard un peu lointain et cette humilité si grande qu'ils sont presque insupportables aux gens des villes.
Merci beaucoup Chantal, et à bientôt pour une prochaine émission.
Eh bien, à très prochainement pour un prochain conte.
C'était votre émission Patrimoine et Spiritualité. Une émission qui a été réalisée avec Chantal Bruel.